Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du lundi. La grande table des idées justement à partir de 12h55. Aujourd'hui avec l'avocat François Sureau contre le lent mais sûr détricotage de notre état de droit et l'affaiblissement de nos libertés. Liberté de s'exprimer, liberté de manifester et même de haïr sans dents, sans liberté. Un court texte qui paraît dans la collection Tract chez Gallimard. Il redonne du souffle à ce mot et nous invite à prendre conscience de ce qui se joue actuellement. Mais d'abord, Mati Diop, Loin des yeux, dans Atlantique, son premier long, primé à Cannes et en salle ce mercredi, la réalisatrice franco-sénégalaise fait se retrouver les exilés et celles qui sont restées loin des yeux mais si près du cœur. Mati Diop est notre invitée jusqu'à midi et demi.
La grande table. Olivia Jesbert.
Est-ce que tu sais que tu dois te marier dans 10 jours avec Omar? Si tu veux Dieu?
Oui, je veux que tu sois mal.
3 mois
Atlantique, un film tourné en Wolof. Un train traverse le quartier de Tiaroy où vous avez tourné Mati Diop. Au loin, il y a cette tour moderne, tout juste sortie de terre qui domine la ville de Dakar et sa banlieue, en pleine mutation. Non loin, la mer. Ada et Souleymane viennent de se retrouver en cachette. Elle est promise à un autre qu'elle doit épouser dans 10 jours. Ils volent à la vie encore quelques instants. Elle lui reproche de ne pas assez le regarder. Tu ne fais que regarder l'océan. Bonjour Mati Diop.
Bonjour.
Vous êtes au téléphone et là maintenant vous êtes dans le studio.
Et
si on raccrochait ce téléphone, c'est bien, quelle entrée en scène. Bah oui, vous avez été un petit peu retardé parce que hommage à Jacques Chirac partout dans la ville de Paris aujourd'hui, des chefs d'État qui circulent et du coup plus compliqué de venir jusqu'à nous. Mais vous voilà, rebonjour de vive voix.
Rebonjour.
Ravi de vous voir.
Merci de me recevoir.
Cannes. C'est au bord de la Méditerranée. Cannes. C'est aussi votre film en présence cette année en sélection officielle et un prix. Enfin, ça y est. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça symbolisait pour vous, cette présence à Cannes et ce prix pour Atlantique?
Avec un petit peu de recul, ce qui est très fort, c'est en fait d'être à cet endroit-là, alors que qu'aucun compromis vraiment n'a été fait. C'est-à-dire que autant sur l'écriture du scénario avec mon co-scénariste Olivier Demangel que le choix de mes productrices dont c'était le premier long métrage, Fatima Al-Kadiri dont c'était la première bande son, ma monteuse aussi dont c'était le premier long métrage de cette envergure, les acteurs qui n'avaient jamais joué. C'est vrai que quand j'ai réalisé qu'on était là alors que c'était notre premier long à tous et que en se choisissant alors qu'on n'avait pas encore réalisé de long, c'était quand même un vrai pari. C'était, j'aurais pu aller vers des producteurs plus expérimentés. Enfin bref, on aurait pu faire des choix plus sécurisants et on a vraiment pris pas mal de risques et tout en proposant un récit et un film accessible, parce que c'était vraiment le véritable souhait de proposer un film qui soit une fable universelle, une fable politique. Je suis quand même restée très très proche de mon langage, enfin de ce que je développe dans mes courts-métrages depuis quelques années, et c'est formidable en fait d'être acceptée, reconnue tel qu'on est, sans avoir fait aucun compromis. Voilà. Après, ce qui était très fort, c'est d'être au sein d'une édition si différente des autres, où il y avait aussi un autre premier long métrage, celui de Ladjli, français d'origine africaine, d'autres cinéastes femmes, Céline Sciamma et Justine Triet, de faire partie d'une édition qui est beaucoup plus représentative de ma génération, de et de sa diversité.
Ladjli, Les Misérables, autre film français primé à Cannes cette année. La lumière, du coup, sur ce film et aussi sur vous, sa réalisatrice, et toute l'équipe qui a participé au film, les acteurs. C'est ça peut-être la magie d'un grand prix au Festival de Cannes. La lumière, elle est très importante en plus dans ce film. Elle permet de rendre visible et de voir des choses qu'on a peu l'habitude de voir ou qu'on ne voit plus, de sortir de cet aveuglement. Dans votre film aussi, on peut avoir des yeux, on veut avoir des yeux pour regarder. Regarder, et pas des yeux pour pleurer. On pleure peu au Sénégal.
Ah, j'aime bien votre question. Elle est si particulière. Oui, il y a beaucoup de pudeur. Il y a beaucoup de pudeur. On pleure peu. Je crois qu'on pleure peu, ouais. Je crois qu'on pleure peu et qu'on pleure. Il y a énormément de choses à relativiser. Il y a d'ailleurs, quand on vous demande comment ça va, la réponse en wolof n'est pas je vais bien ou je vais mal, c'est je suis là. Mangifirek, je suis là et c'est déjà bien. Ça, je pense que ça en dit long sur le rapport à la fois au présent et à la fois à une certaine retenue, une certaine pudeur. Il y a peu de larmes d'ailleurs dans Atlantique et évidemment c'est quelque chose que j'ai essayé de mesurer assez précisément. Quant à Ada, qui pleure assez tard dans le film, les vraies larmes sont celles de Dior, qui est censée être la plus forte d'entre toutes. Mais il y avait vraiment en termes de curseur, fallait faire très attention à ça, aux larmes dans le film. Je me méfiais beaucoup de la position aussi victimaire de ces femmes. Je voulais ni qu'elles soient passives dans l'attente, ni qu'elles soient des guerrières monolithiques qui résistent à tout. Et
pourtant, il y aurait des raisons de pleurer pour elle, puisque le film raconte aussi le départ des hommes. Ils s'embarquent, ils partent vers l'Europe et ils n'en reviendront pas. On nous dit tout sur la façon dont les Africains meurent, mais rien sur la façon dont ils vivent. Ça, c'est le romancier suédois Henning Mankell qui disait ça. Il s'était installé une partie de l'année au Mozambique. Il vit encore entre Maputo et la Suède. Lui, qui a aussi coutume de dire « j'ai un pied dans la neige, l'autre dans le sable », c'est une assez jolie formule. Vous aussi, vous avez un pied dans le bitume parisien, où vous avez grandi, et un pied au Sénégal, où vous avez maintenant aussi tourné ce film, Mati Diop. C'est une Afrique qui vit, que vous vouliez aussi montrer, une Afrique qui aime, qui se marie, qui fait la fête, qui travaille. C'est tout ça à la fois.
Oui, c'est tout ça à la fois, et c'est vrai que, comme le projet premier, primordial, était de consacrer un film à une certaine jeunesse disparue en mer. Je me suis aussitôt méfiée du risque d'enfermer toute une jeunesse dans ce destin-là, dans cet appel-là. Et du coup, d'où l'importance de raconter l'histoire des disparus à travers les vivants, de témoigner, de tenir compte à la fois de non seulement de la jeunesse vivante, mais surtout de sa complexité, de sa diversité, de ses contradictions. Et je me souviens très clairement m'être dit, je ne peux pas proposer un film aujourd'hui en Afrique, à Dakar, qui serait un énième constat pessimiste, triste et purement mélancolique. L'idée, c'est vraiment que les vivants portent en eux ces disparus, portent en eux ces morts, mais qu'il y a la question d'une transcendance, de quelque chose qui se dépasse, de quelque chose qui... En fait, j'ai filmé Ada et j'ai voulu la filmer comme une survivante, comme quelqu'un qui survit à cette perte, à cette disparition, à cette perte. Voilà, et que ça lui permette vraiment de se reconquérir elle-même.
Que ça donne un sens à sa vie, parce que
c'est ça.
La vie continue pour ceux qui sont restés. Ce long métrage est né, vous l'évoquiez, d'un cours atlantique, oui. Aussi avec un S tourné à Dakar il y a 10 ans, au moment où des milliers de jeunes quittaient le Sénégal pour rejoindre l'Espagne. on aurait tendance à dire dans l'indifférence générale, mais peut-être de ce côté-là de l'océan, ici en Europe, beaucoup détournent les yeux de cette situation-là, mais on s'interroge assez peu sur ce que vivent ceux qui sont restés. Quelle mémoire de ceux qui sont partis et qui ne sont jamais arrivés? Est-ce que cette mémoire, elle est très entretenue aussi là-bas?
Quant aux disparus, en fait, ce qui était très troublant à l'époque, donc je parle de cette période comprise entre 2000 et 2012 environ, où énormément de jeunes sont partis, c'était d'un côté, il y avait un surtraitement médiatique, on parlait que de ça, et on en parlait tellement qu'on pensait maîtriser le sujet, comprendre, à tel point que même au Sénégal, quand je racontais à quelqu'un, un taximan ou n'importe qui, que j'étais en train de travailler sur un court-métrage dont la question de la migration était plus ou moins centrale, on pouvait me répondre des choses comme « Ah oui, 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 l'immigration clandestine ». C'était vraiment devenu un sujet saturé. Mmh. Et à force de penser qu'on savait tout sur ce sujet, en fait, on ne savait rien. Donc d'un côté, il y avait surexploitation du sujet, mais assez maltraité. Et de l'autre, je trouvais qu'il n'y avait rien de véritablement fait à la hauteur du drame, que ce soit, par exemple... Alors, il y a peut-être des choses qui m'ont échappé, mais j'ai pas ressenti de gestes forts, de symboliques de la part du gouvernement pour, je sais pas, que ce soit un monument aux morts ou quelque chose, enfin quelque chose qui rende matériel et qui rende tangible et qui rende concret toutes ces vies disparues en mer. Et je pense que ça m'a à l'époque troublée La particularité même de ces disparitions, c'est qu'elles n'ont, et de cette tragédie, c'est qu'elle n'a pas de nom, c'est qu'elle n'a pas laissé de traces, en fait.
Mais du coup, vous aviez le désir de faire un film tombeau, au sens le plus noble du terme. À chaque fois que tu regarderas en haut de ta tour, tu penseras à nos corps sans tombeau, dit une des femmes revenantes à l'entrepreneur qui n'avait jamais payé les ouvriers, qui du coup ont choisi de partir, de quitter le Sénégal. Est-ce que vous aviez ce désir de faire un film tombeau d'une certaine manière?
C'est pas, je me serais jamais, je pense, oui. Enfin, après le terme est à la fois juste et un peu.
Le risque atlantique est une forme de stèle aussi pour garder en mémoire.
Oui.
La présence de ceux qui ont disparu en mer.
Bien sûr. Après, c'est aussi, je pense que c'est aussi une manière de créer des correspondances avec avec la dimension hantée de l'Atlantique que ce soit à travers les fantômes de la traite négrière ou de la colonisation. C'est vrai que qu'en 2008, quand j'ai réalisé le court-métrage Atlantique, j'y pensais énormément à la manière dont cet océan était hanté par toutes ces histoires-là, dont certains écrivains, poètes, comme par exemple Derek Walcott, ce sont des choses qui ont traversé l'œuvre d'un certain nombre de poètes ou de romanciers antillais. Derek Walcott, par exemple, a consacré un poème qui s'appelle The Sea is History, la mer est histoire, qui parle de ce tapis de l'unité caraïbéenne. Unis par ce tapis en fait d'esclaves qui tapissent la mer en fait, et donc ça fait vraiment partie de l'imaginaire collectif d'une certaine histoire noire caraïbéenne mais aussi africaine, et c'est des choses qui m'ont retraversé beaucoup quand j'ai réalisé ce premier court atlantique, et là sur ce long métrage j'avais envie que la question des profondeurs et de l'endroit où repose, même si la question du repos est se pose, puisque sans sépulture a priori il n'y en a pas, et c'est pour ça que les esprits reviennent hanter le corps des vivantes. Ce que je trouvais intéressant en tout cas dans Atlantique, c'est cet écart immense et fatal entre les hauteurs de cette tour et de cette tour fantasmagorique du futur qui incarne les dérives capitalistes de Watt de l'époque, et les profondeurs de ces abysses où demeurent ces ouvriers qui n'ont jamais été payés. L'idée, c'était aussi vraiment de faire ressentir dans le film l'écart immense, en fait, entre ces hauteurs et ces profondeurs. Je trouvais que c'était important que ça résonne dans le film d'une manière ou d'une autre.
Et c'est toute la difficulté, les romanciers peuvent essayer de mettre des mots sur l'absence et la cinéaste doit essayer d'incarner la perte, trouver les bonnes images pour parler, pour montrer aussi cette absence. Dans son nouveau roman, Les Veilleurs de Sangomar, paru chez Albin Michel, Fatou Diome raconte à sa manière le naufrage du Jo'ola. C'était en 2002, le 26 septembre, il y a 17 ans, le Jo'ola, ses naufrages, c'était ce ferry qui reliait Dakar à la Casamance, une tragédie qui a été surnommée celle du Titanic africain, avec près de 2000 personnes qui ont disparu à ce moment-là. Elle se demande, Fatou Diome aussi, dans ce roman, qu'est-ce qui détermine sur un traumatisme comme celui-ci l'émotion de l'opinion internationale. Traumatisme pour les Sénégalais, beaucoup moins à l'extérieur. C'est à eux qu'elle a voulu rendre hommage dans ce roman-là. Fatou Diome, qui est une Sénégalaise de l'extérieur, qui est aujourd'hui installée en Alsace et qui a offert un roman à ses hommes de l'exil. C'était son premier, Le ventre de l'Atlantique, puis un autre, Omer, épouse, sœur, à celles qui attendent. Paru en 2010 chez Flammarion, on l'écoute.
L'Europe dit immigration, mais l'immigration ici en Europe, cela veut dire émigration de l'autre côté de l'Atlantique. Et donc c'est l'arrachement que je voulais analyser. Quand on enlève un cocotier, il reste un trou. Il y a un glissement de terrain, il y a l'architecture sociale qui va bouger. Et les mères de clandestins sont dans l'angoisse, elles attendent, elles espèrent. C'est le propre des sociétés patriarcales aussi. On pense au combat des hommes. Souvent, ces hommes sont portés par des femmes. Quand vous avez un homme qui a deux ou trois épouses et puis qui s'en va à l'étranger, à la maison, il y a toute une marmaille à nourrir au quotidien, à soigner, à éduquer. Et ce sont les femmes qui portent tout ce petit monde sur les bras. Quand les immigrés partent, on laisse à la maison les femmes, les vieux, les enfants. Et ce sont les femmes qui doivent tous les jours trouver une solution pour régler chaque problème. Et je trouve leur combat héroïque. C'est vrai qu'elles ne traversent pas l'Atlantique, mais c'est quand même très difficile d'être là sans le pilier de famille. Donc vraiment le pilier, le vrai, ce sont ces femmes-là.
Voilà, et vous, Ada, Fanta, Dior, Mati Diop, vous avez aussi trouvé vos héroïnes, hein?
Non, je suis très contente que d'entendre la voix de Fatou Diome qui est brillante, qui est éclairante, qui est essentielle et qui m'a beaucoup accompagnée en parallèle de l'écriture. Je parlais à l'instant de la dimension hantée de l'Atlantique. J'ai cité Derek Walcott, mais évidemment que le ventre de l'Atlantique, rien que ce titre est tellement puissant, tellement clair et voilà, et à nouveau, ce dont Fatou Diome parle si bien, c'est en effet la manière aussi dont j'ai voulu écrire mes héroïnes. Et en fait, c'était l'idée de raconter l'odyssée de Pénélope, pas celle d'Ulysse, mais cette fois-ci celle de Pénélope. Et finalement, le parcours initiatique... l'odyssée par laquelle Ada va traverser entre la disparition de son amoureux et son retour en fantôme, tout ce qu'elle va devoir affronter d'elle-même, de la société, ce mariage arrangé, décider aussi à vivre sa vie en accord avec ses désirs malgré l'opinion si forte de sa famille, de son quartier, de toute la société. Et puis elle termine quand même par faire l'amour avec un enquêteur possédé par son amoureux et se réveiller dans une boîte de nuit. Elle termine quand même là. Au début du film, elle est dans sa chambre encore d'enfant, promise à un autre. Elle termine quand même, elle se réveille quand même dans une boîte de nuit, quoi. Donc, qui se trouve est plutôt une belle chambre à soi.
Tout en disant « je suis Ada ». Ce sont les mots de votre héroïne vers la fin du film. Elle apprend à se connaître aussi à travers cette histoire. La beauté des femmes, c'est de se marier, dit le père du marié au moment de la cérémonie, de cette célébration. À travers ces portraits de femmes, qu'est-ce que vous lui répondez, Mati Diop ? La beauté des femmes, c'est d'aimer ?
En tout cas, quant au film, et je pense que c'est un film, c'est aussi pour moi un rite initiatique, pour moi-même. Et si je devais tisser un fil entre les héroïnes de mon film, entre moi-même et les femmes qui ont participé à ce projet, en tout cas certaines d'entre elles, je pense que être une femme, c'est devenir soi-même, c'est devenir soi. Et je pense que ça s'applique autant aux femmes qu'aux hommes. Je pense que la finalité, elle est de devenir soi. Et ce qui est bien, c'est que chacun est libre de définir le paramètre et le cadre de l'invention de soi. Donc, pour l'instant, je le vois comme ça.
Il est midi 22 sur France Culture. Avec nous, la réalisatrice Mathilde Diop. Stay high, Brittany Howard.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Brittany Howard, c'était Stay High, un extrait de l'album qu'on voulait vous faire entendre. Est-ce qu'on essaye? Ouais, c'est dans l'actualité musicale. Chanteuse des Alabama Shakes, Brittany Howard, hommage à sa sœur Jame dans ce nouvel album solo pour elle, Stay High. L'album est dans les bacs. Avec nous, la réalisatrice et cinéaste Mathilde Diop, à l'occasion de la sortie en salle mercredi de son film Atlantique, un film France Culture par ailleurs. Vous êtes avec nous pour retracer le parcours de ces hommes qui partent, de ces femmes qui restent, de vos héros et de vos héroïnes. Héros qui se réincarnent dans le corps de ces femmes qui sont restées là, c'est un peu aussi un film de fantômes, mais des gentils fantômes, des revenants qu'on aime à retrouver parce qu'ils ne nous avaient pas encore tout dit. Le Sénégal, c'est aussi un pays de légende, un pays où il y a des mythes forts qui bercent les imaginaires. Vous parliez de l'Odyssée tout à l'heure. Ça, c'est des mythes, c'est des légendes universelles. Il y a des mythes qui sont très particuliers au Sénégal que vous avez réadopté dans ce film.
Alors, le film est vraiment fait de, en tout cas au niveau des influences, de légendes et de mythes qui viennent à la fois d'Afrique et mais en même temps aussi d'Occident, d'Europe, de contes moyenâgeux allemands, de légendes bretonnes, de contes gothiques, mais aussi de tout un imaginaire lié aux djinns musulmans. Et en fonction de la culture locale que l'islam rencontre, ça génère aussi des figures différentes. Chaque pays musulman a ses propres figures. Et au Sénégal, il y a une rencontre entre à la fois l'imaginaire, l'esthétique musulman et les figures qui appartiennent à la tradition africaine, comme par exemple le Farourab, qui est une figure qui m'a toujours beaucoup fascinée. depuis mon adolescence, c'est une sorte de djinn amoureux qui prend possession des femmes la nuit, qui leur font l'amour la nuit, et apparemment quand une femme échoue entre guillemets dans son mariage, on la soupçonne d'avoir un farourab, d'être possédée par un djinn amoureux la nuit. Et encore aujourd'hui, hein, ça arrive beaucoup. Moi qui ai 37 ans et qui ne suis pas encore mariée et qui n'ai pas encore d'enfant, je pense que ma famille va commencer à se demander si j'ai pas moi-même un farourab.
Ils sont plutôt sympathiques, ceux que vous présentez en même temps dans le film, et on pourrait presque vous le souhaiter. À vous entendre, la société reste quand même très conservatrice aujourd'hui encore.
Qu'est-ce que vous tout à l'heure, vous parliez de gentils fantômes et maintenant vous les trouvez sympathiques. J'ai du mal à comprendre.
Moi, je les trouve assez beaux, en fait. Ces hommes qui reviennent se réincarner. Il n'y a pas de peur dans ce retour, en fait.
C'est vrai que
ces femmes sont occupées par l'esprit des hommes qu'elles ont aimés.
Bah, en fait, ils ont une dimension très pragmatique. Je ne pense pas qu'ils soient gentils ou qu'ils soient méchants. Je pense qu'ils reviennent pour réclamer justice. Ce qu'ils veulent, c'est l'argent que leur entrepreneur leur doit, 3-4 mois de salaire. Donc je ne pense pas que ce soit des gentils fantômes, mais en revanche, je pense que ce sont des fantômes très pragmatiques qui reviennent pour récupérer leur salaire. Et Souleymane, je pense pas que ce soit un gentil fantôme. Je pense que c'est quelqu'un qui revient pour saccager le mariage qui est sur le point d'épouser un homme qu'elle n'aime pas, qu'elle ne désire pas, qu'elle épouse parce que sa famille lui impose, mais aussi parce que sa situation lui impose. Elle ne peut pas faire autrement. Elle n'a pas les moyens, en fait, de refuser ce mariage. Et donc, Souleymane revient saccager ce mariage pour peut-être donner à Ada la possibilité s'en libérer, d'être elle-même. Puis, en effet, il passe une... Bon, je vais peut-être pas raconter toute l'histoire du film.
Ouais. On l'a déjà dit beaucoup, en fait. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous beaucoup.
Merci
de m'avoir
couru pour être avec nous ce midi dans la grande table et d'avoir réussi à être là.
Merci.
Et d'avoir repris votre souffle si rapidement. Le film sort en salle mercredi. Merci à vous.
Merci à vous beaucoup.